Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est quelqu'un d'une intelligence suprême. Et après, sur le terrain,
suprême,
quelqu'un qui est aussi attachant.
On va se calmer.
Ah non, mais, non, mais, suprême, il a, ouais. Non, mais il a un QI qui est largement au-dessus du tien, Fred.
Normand, moi, d'origine.
T'es d'où, toi, Polo?
La famille, c'est Saint-Lô.
Ah, c'est juste à côté.
Une ville nouvelle.
C'est juste à côté. On leur a mis 4-0 en championnat, c'est cadeau.
Pépé, Pépé, t'avais les mains comme des raquettes, Pépé. Et quand je te faisais les ongles, il y avait des ongles à ta barbiche. T'avais les oreilles de Gainsbourg, et toi, t'avais pas besoin de Scott.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous. Et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After, spécial drôle de dame. La seule émission à la radio qui parle de foot étranger pendant 2 heures. Pour l'Italie ce soir, Johan Crochet. Bonsoir, Johan.
Salut, Nico. Bonsoir à tous.
Pour l'Espagne, Fred Armel. Bonsoir, Fredo.
Hola, chicos.
Pour l'Angleterre, Julien Laurence est avec nous. Bonsoir, Julien.
Salut, Nico.
Et pour l'Allemagne, une drôle dame qui fête son Drei und 50 anniversaire ce soir. Bonsoir et bon anniversaire, Paulo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nico, merci beaucoup. Bonsoir, tout le monde.
Ah, t'es plus jeune que moi.
Bah, ben, oui. Un peu, ouais.
Ouais, moi j'ai 54, pas 53.
Ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais dit ça, un an, deux ouais, écarts, voilà. Ça. Ça me semble assez.
Bah, voilà,
ça ne rajeunit cool, pas.
Ouais.
Dans l'ordre, t'as pas eu le temps pour une vraie introduction, non, aujourd'hui?
Écoute, c'est une semaine de Coupe d'Europe, et pour être honnête, je me
disais. Ah, bah oui, c'est vrai, il n'y a pas eu de.
Mais j'ai trouvé très mauvais, tu vois, c'est même pas remarqué, tu vois. Donc. Les semaines précédentes, donc j'ai décidé de faire une pause et pour eh bien, faire respirer mon inspiration médiocre. On verra la semaine prochaine.
Il est traumatisé, Nico, par les résultats des coupes anglais, des clubs anglais en Coupe d'Europe?
Non, non, moi j'aime bien les clubs anglais en Coupe. Moi j'aurais la Ligue des Champions, à l'inverse de toi, Johan. Hein. Vous avez regardé d'ailleurs Real Madrid
Moi j'ai regardé City, ou pas Real City. Et...
ah, t'as regardé quand même?
C'était pas mal quand même.
Ah, je crois que t'aimais pas ce football-là.
Ah, non, mais il y avait Volendam qui jouait en même temps, il savait pas quoi faire.
T'es Volendam, t'as raison.
Avec un nouveau directeur sportif, si je me trompe pas, mon cher Johan.
Wow. Un Volendam?
Ouais.
Tout a changé, ouais.
Non, non, pas trop loin, les amis, quand même. Bon, voilà, on va les laisser
bientôt en les mutants au football vont arriver. Ça va commencer en première ligue, après ça va être aux Pays-Bas, vous allez voir.
Mais voyez, pas d'intro permet de faire ce genre de digression. C'est magnifique. Et de ne pas perdre de temps. Et d'accueillir Gilbert dès maintenant, qui sera là à 22h pour l'after. Bonsoir, Gilbert.
Salut les gars.
Ça va?
Ça va et toi, vous voulez le programme?
Bah oui, c'est pour la télé là. Hein. C'est pour
ça que... Alors, Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter. Extraordinaire.
Pardon? Qu'est-ce qu'il a fait?
Gilbert a publié quelque chose sur son compte Twitter extraordinaire. J'ai appris que le Bayern Munich était un club d'extrême gauche élitiste. Je trouve ça assez extraordinaire.
Ah bon, j'ai pas vu, ça m'a échappé moi.
Donc voilà, je vais revoir mes livres historiques, mais bon.
Oui, c'est un tweetos qui m'a envoyé une carte avec les tendances politiques des différents clubs européens.
Ah, intéressant.
Alors, apparemment,
approximatif.
Vu ce que nous dit Polo, tout n'est pas juste.
Ah, oui.
Ah bon? Et alors, je serais très étonné de savoir ce qu'il est mis sur le Real, parce que là, bien malin, peut dire quelle est la couleur politique
tendance
du Real Madrid.
De quoi, des supporters? Voilà, c'est ouais, ça. Qu'est-ce qui définit une tendance? C'est l'histoire du club ou c'est les supporters? Bon, on va regarder. Pour vous dire également qu'à 21h45, vous nous appelez, hein, le 32-16, les auditeurs face aux drôles de dames, vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien. N'hésitez pas à faire le 32-16. On est là. Et puis, vous le savez également, à 22h, Gilbert. Mais d'abord, vos trois points. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dames? 15 secondes chacune. C'est parti, Johan.
On va revenir sur le match entre l'Udinese et la Roma, mais pas trop sur le sportif, mais plutôt sur le malaise d'Evan Ndika, et tout ce qui a été l'après-match de cette rencontre à Udine. On va revenir aussi sur le match très 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 compliqué du Milan sur la pelouse de Sassuolo, avec des trous d'air franchement hallucinants, défensivement notamment, et en termes de concentration et d'organisation de cette équipe-là, qui un peu inquiétant pour le sprint final. Un petit mot sur l'Atalanta et son jeu très européen. Et puis, dans la minute, évidemment, on parlera des gardiens.
Bah, bien entendu, on va parler du Barça, hein, avec le 11 des Catalans qui se dessinent pour jouer contre le Paris Saint-Germain mercredi. On va parler du Real, qui pense qu'il peut faire un coup à City. Et puis, Griezmann aussi extraordinaire. Et puis, bien entendu, je vais donner le point de vue espagnol sur le gros événement en Espagne, c'est-à-dire le titre de Xabi Alonso, parce que ça fait la une des journées en Espagne.
Julien!
On a encore vécu un week-end à rebondissement dans la course au titre en Première Ligue avec les défaites d'Arsenal et de Liverpool. On va revenir dessus, bien sûr, et Manchester City, le leader désormais, le nouveau leader, et qui verra donc le Real de Fredo venir à l'Etihad mercredi soir. Et on aura une minute sympa aussi sur une équipe promue dans la division supérieure.
D'ailleurs, j'avais une suggestion de musique à la place de ce que tu as envoyé, qui est très bien d'ailleurs, j'ai écouté, hein, pour le club dont tu vas parler. On en parlera tout à l'heure, mon cher Julien. Et puis Polo, 15 secondes.
Bah, évidemment, on va revenir sur le premier titre en Bundesliga du Bayern Wolfsburg Leverkusen, version espagnole un petit peu. On va évidemment se poser la question du match le plus important de la saison pour le Bayern Munich. Le club va-t-il être déclassé ou pas? Et puis, sur la, dans la minute, on va parler Oseille, histoire de ne pas changer tellement.
Voilà, voilà, programme des drôles de dames dans Génération After. Alors, Gilbert. Le Bayern Munich est-il un club de gauche, réellement?
Bah, là, c'est vrai qu'il
peut. Bon, j'ai regardé le truc,
j'ai le schéma sous les yeux. On met le Real plutôt à droite, mais pas trop non plus, quoi. Plutôt, bah, et très élitiste, plutôt à droite.
Bah, franchement.
Un peu conservateur, le Real, quand même.
Bah, non, bah, non, c'est ça. Alors, c'est vraiment ne pas connaître la,
ah bon
non, non, bah, non, la sociologie des supporters du Real. Parce que t'as vraiment tout. Tous les partis politiques.
Ah donc là, on parle des sensibilités de supporters, en fait.
Oui,
de supporters. Dominantes.
Mmh. Oui, mais on sait pas si c'est historiquement ou actuellement. Oh, parce que, par exemple, moi, je regardais la Roma, ils le mettent à droite. Et plutôt élitiste.
C'est assez, en
sauf fait, que historiquement, c'est ouais. pas du tout ça. Ça l'est devenu.
Mais
aujourd'hui, ça l'est pas. Enfin,
là, je constate que Strasbourg n'est pas dans le schéma, donc j'aurais pas dû.
Le club professionnel, Gilbert. On a plus juste le club professionnel.
Allez, son anniversaire, il est en forme, celui-là.
Y a-t-il un club de gauche en Angleterre, mon cher Julien?
Je sais pas du tout.
Sensibilité.
Ça n'existe pas, la gauche en Angleterre.
C'est pour ça que je pose la question. Voilà.
Bon, Gilbert. Ils mettent, par exemple, le Celtic Glasgow, très à gauche.
Oui.
Ah bon?
Selon le schéma.
Ils n'ont pas mis le Rayo. Rayo Vallecano, c'est très à gauche.
Oui, Rayo.
C'est très à gauche, le Rayo.
L'OM,
ils le mettent très à gauche, le Rayo, quand même, là.
Oui.
Ah oui, parce que là, s'ils ne mettent pas le Rayo très à gauche.
Voilà, mode. Comme quoi, c'est fiable. Bon, ah Gilbert, oui. Sinon, à 22h, ah. de quoi parlez-vous ce soir?
Soyez attentifs, à 22h, on a une exclue concernant les Jeux ah Olympiques oui. Qu'on vous livrera tout à l'heure. Donc, vous allez voir, c'est très intéressant. Je ne sais pas, une annonce bidon. Hein, donc, soyez au rendez-vous à 22h. Ensuite, le PSG, bien sûr, à la veille du match face au Barça. Quelle équipe, quelle dynamique, est-ce qu'il faut y croire? On vous attend au 32-16. Daniel Riolo et Stéphane Guy veulent en parler. Et puis le week-end de Ligue 1, on viendra sur la course à l'Europe, la course au maintien, bien sûr, après les matchs du week-end. Et puis ce qui s'est passé à Marseille, hein, entraînement ouvert au public, 10 000 personnes au stade Vélodrome ce week-end, des enfants en grande partie, puisque c'était le but, donc de venir avec un enfant accompagné. Donc l'engouement autour de l'OM ne faiblit pas, même quand il n'y a pas de match le week-end sur place. Bref, voilà le programme de 22h à minuit, ça promet, comme tous les lundis.
C'est à peine plus qu'au Trianon, hein.
Ouais, c'est un peu plus qu'au Trianon.
Ouais. Oh, très belle soirée d'ailleurs au Trianon. Ouais, et...
Merci Yohan.
Ouais, et les auditeurs très sympas d'ailleurs.
Public de gauche ou de droite d'ailleurs? C'est une vraie question aussi. L'after, émission de gauche ou de droite?
De droite, évidemment.
Bah, là, rien qu'autour de la table, je crois que nous avons un spectre assez.
C'est large.
Bah, moi, je ne sais pas. Moi, je sais pas.
Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas.
C'est vrai, tu ne sais pas, toi. On ne sait pas.
Moi, c'est clair. Enfin, la gauche pour laquelle j'ai voté, la plus grande partie de la vie n'existe plus.
D'accord.
Donc, je ne sais pas.
Donc, autant aller voir ailleurs, quoi.
Bah, non, mais je ne sais pas aujourd'hui où je me situe.
Bon, très bien.
Allez, une couronne sur le maillot, ça fait club de gauche ou club de droite, mon cher Fred, ça?
Une couronne sur le maillot, bah écoute, le RC Lens, on a un chevalet de mine et une lampe de mineur, donc non, je sais pas si. Au Real, il y a la couronne, bien sûr, oui, parce que bah, comme tous les clubs espagnols qui s'appellent Real. D'ailleurs, la plupart des clubs espagnols s'appellent Real quelque chose.
Allez, parlons foot. Merci Gilbert.
Allez, c'est
alors à 22h. Le Bayer Leverkusen, donc cet élève moqué, harcelé dans la cour de récré du collège, du lycée, qui finit enfin par tarter tout le monde. 120 ans d'espoir, d'attente, de multiples deuxième places, toujours. Et le voilà champion, mon cher Polo. La revanche du Bayer. Ce n'est plus donc le Leverkusen, pour ceux qui ont découvert ce surnom-là historique. Il y a un autre surnom d'ailleurs, hein, pour évoquer ça.
Bah, c'est surtout Viskusen.
C'est ça.
Le plus important, plus que Leverkusen. Leverkusen, c'est parce que on se moquait un petit peu du fait de ne pas avoir gagné le championnat, ce qui est toujours un peu illogique lorsqu'on voit l'effectif de Leverkusen chaque saison, et notamment la période 1996-2002, celle où est vraiment né le mot Viskusen, c'est-à-dire vice, c'est juste vice le second, c'est hein. Et ça c'est important parce qu'en fait, si tu veux, dans la joie qu'il y a eu, l'envahissement du terrain, etc., beaucoup ont parlé du premier titre en Bundesliga, mais en fait, t'as l'impression que c'est tout l'historique qui s'est effacé d'un seul coup. Et c'est pour ça que c'était extrêmement joyeux. C'est pas spécialement le fait d'avoir fêté le titre en Bundesliga, c'est qu'on a l'impression finalement que 45 ans en Bundesliga sans discontinuer, et en fait avec le fait d'avoir perdu des titres à la dernière journée, ou le fait d'avoir eu plusieurs fois des avances confortables et d'avoir perdu le championnat à l'avant-dernière journée à l'extérieur, ou des buts contre son camp, des choses comme ça, fait que t'as l'impression qu'on est juste en train de rétablir une histoire qui n'aurait jamais dû arriver, en fait. dans cette victoire, il y a beaucoup de choses. Il y a évidemment un coach espagnol qui est en train de montrer qu'il est en train de devenir l'un des plus grands coachs européens.
Il faut rappeler pour le club l'histoire, c'est qu'il est arrivé en octobre 2022. Le Bayern était avant-dernier de Bundesliga,
À ce moment-là, ils sont avant-dernier de Bundesliga. Mais ça, c'est typique de Leverkusen et de la Bundesliga aussi. On avait avant le coach suisse Geraldo Seguin qui avait ramené l'équipe en Ligue des Champions. Ça s'était mal passé. On prend Xabi Alonso. Il ramène l'équipe en Europe parce que, encore une fois, quand il prend l'équipe, il est théoriquement relégable. Il finit en demi-finale de Ligue des Champions, d'Europa League. Il craque en fin de saison, ce qu'on oublie, parce qu'ils avaient encore la possibilité d'aller chercher la Ligue des Champions. Et puis, cette saison, j'ai envie de dire la saison 2, Xabi Alonso, avec quelques ajustements comme Boniface, comme Grimaldo, par exemple, comme Granit Xhaka, qu'on parle beaucoup de lui en Allemagne en ce moment, on a l'un des plus grands champions de l'histoire de la Bundesliga. J'ai fait une petite erreur hier en parlant de ça. En fait, il y a plusieurs choses. Le Bayer Leverkusen n'est pas le premier club allemand à être champion sans défaite. C'est le Pep Guardiola en 2014. Ce qui ne veut pas dire qu'après qu'ils ont eu le titre, ils n'ont pas commis des défaites. Ils n'ont pas eu des défaites. C'est ça la différence.
Il y a encore en route pour être invincible, quoi.
Voilà. Là, ils peuvent encore être invincibles. Deuxième chose importante. Le Bayern 2013-2014 de Guardiola avait été champion dès la 27e journée avec 25 victoires et 2 matchs nuls. Donc ils sont en avance théorique sur ce Leverkusen version Alonso. Mais si Alonso continue de motiver ses troupes, ils peuvent très bien battre le record, cette fois-ci de 2013 de Jupp Heynckes avec 92 points, par exemple.
Incroyable. Fred, en Espagne aussi, on parle beaucoup de Xavi Alonso. Je rappelle, un très jeune entraîneur. C'était seulement sa deuxième saison à la tête d'une équipe professionnelle. Et t'es adjoint à la Real Sociedad chez les jeunes, c'est ça?
Il a été entraîneur du B. Du B. De la B, de l'équipe B. Très bien d'ailleurs, Sam. On voyait déjà son style, quoi. Mais de toute façon, moi je me souviens d'une interview que j'avais faite avec lui. C'était le mondial 2014, c'était au mois de mars, où il sentait déjà que l'Espagne allait se faire. Il craignait vraiment que l'Espagne prenne la porte dès le premier tour. C'est-à-dire que tu sens, le mec, il sentait les choses, quoi. Et puis, il a toujours été la courroie de transmission de l'entraîneur sur le terrain. Non, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il y a une chose qui m'a vraiment beaucoup surprise. C'est le fait que des journaux comme AS et Marca, avec des matchs de Ligue des Champions essentiels demain après-demain, on fait leur une sur Xabi Alonso et le Bayer Leverkusen.
C'est lui en portrait.
C'est la grosse photo.
C'est pas en haut.
Non. Sport et Mundo Deportivo ont fait ce qu'on appelle des bandeaux, mais AS et Marca, c'est la pleine page. C'est-à-dire la grosse info du jour, c'est Xabi Alonso champion d'Allemagne quand même. Donc c'est dire ce qu'il représente dans le football espagnol. Genre une semaine où il y a pas trop de matchs importants, tu pourrais dire ok, mais là, on a quand même Barça PSG.
Comment tu l'expliques? La fierté d'avoir un ambassadeur comme ça en Allemagne, un homme qui incarne une nouvelle génération d'entraîneurs.
Totalement. Et la fierté, et aussi parce qu'on sait qu'il sera un jour l'entraîneur du Real. Donc il y a un intérêt très important à le suivre. Et le choix qu'il a fait, on en avait discuté avec Polo, de rester, de pas partir à Liverpool ou au Bayern, c'est d'être prêt dans un an ou dans deux ans pour le Real Madrid, qui sera quoi qu'il arrive un jour son club. Même si j'en ai parlé avec son agent la semaine dernière, lui, il dit qu'il a pas pris cette décision-là pour ça. Il y a une vraie fierté de voir cet entraîneur pur produit de la formation espagnole. C'est quelqu'un qui
a une très bonne image. On parle beaucoup de son humilité aussi en Allemagne, mon cher Polo. Quand on parle de Xabi Alonso, qui aussi, rappelons-le, la saison est loin d'être terminée. Hein, il a la possibilité de faire un triplé. Bundesliga, Coupe d'Allemagne.
Vas-y. Et l'Europa League. Mais ça, c'est extraordinaire, parce que si j'ai parlé de Pep Guardiola version 2013-2014 et du titre, et qu'ensuite le club, l'équipe s'est relâchée, c'est qu'en fait, moi, je suis jamais rentré dans la logique où j'entends des personnes dire oui, mais ils peuvent gérer les matchs. Maintenant, on est déjà champion d'Allemagne, mettre ça de côté, c'est pas grave si on perd. Lorsque Pep Guardiola gagne à la 27e journée en 2013-2014, c'est juste avant la double confrontation en demi-finale contre le Real Madrid. Et ça fait 1-0 et 4-0 pour le Real Madrid. Et entre-temps, le Pep Guardiola va perdre deux matchs de championnat. C'est-à-dire que là, on pourrait très bien faire un débat. Est-ce que Leverkusen va fausser le championnat pour se focaliser complètement sur l'Europa League? Je ne suis pas persuadé, à l'aune de l'exemple que je viens de donner, que ce soit une excellente chose de se démotiver complètement en disant On va se reposer en championnat. Maintenant, on peut prendre des 3-0, on s'en fiche.
Non, il y a une dynamique.
Il y a des dynamiques, ouais.
C'est 43 matchs sans défaite.
Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et je pense peut-être que ce serait la plus grande des erreurs de vouloir être démobilisé pour le reste du championnat, en dehors du fait que tu peux fausser quelque part, entre guillemets, le championnat. Maintenant, c'est pas de leur faute, ils sont champions. Bon. Mais, donc voilà. Donc, faire un triplé historique, oui, pourquoi pas. Maintenant, quand tu vois les équipes qui restent, je persiste, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, à dire que ce n'est pas une grande équipe. Lorsqu'on voit, par exemple, les Bayern d'il y a une dizaine d'années, quand tu vois les effectifs qu'ils ont, quand tu vois même le grand Bayern de 96-2002 avec Balak, Zé Roberto et compagnie, c'est pas tout à fait le même niveau de l'équipe. Par contre, c'est une grande performance qu'ils ont réalisée.